Bonjour et bienvenue à cette émission Parole au présent au microphone Claude Julien. Ce matin, je suis en compagnie de Francine Robert, professeure à l'Institut de pastoral des Dominicains à Montréal. Bonjour Francine.
Bonjour Claude.
Bienvenue à l'émission.
Merci.
Alors, c'est notre dernier dimanche avec Luc. Et à compter de dimanche prochain, c'est une nouvelle année liturgique. Et la façon de terminer l'année liturgique, traditionnellement, c'est avec cette fête du Christ-Roi. Nous allons tout de suite plonger dans ce beau texte de Luc que vous allez nous présenter à l'instant même.
Oui, c'est un récit de Jésus en croix, ce qui est un peu surprenant si on fête le Christ-Roi. C'est paradoxal, hein?
Triste roi à première vue.
C'est un beau jeu de mots, ça, oui. C'est un des très beaux récits qui va me donner une chance de revenir sur les thèmes principaux de l'Évangile de Luc. Peut-être attirer tout de suite l'attention pendant que vous lirez le récit sur où apparaissent les mentions de Jésus comme roi. Dans ce récit, elles reviennent dans les moqueries que les gens adressent à Jésus. La mention de Jésus-Roi apparaît aussi sur le fameux panneau, l'écriteau qui est placé au-dessus de sa tête. Et ça revient enfin dans la parole du deuxième larron.
C'est au chapitre 23 de l'Évangile de Luc. On venait de crucifier Jésus. Et le peuple restait là, à observer. Les chefs ricanaient en disant « Il en a sauvé d'autres. Qui se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu, l'élu? » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui offraient une boisson vinaigrée et disaient « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Une inscription était placée au-dessus de sa tête « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs, pendu en croix, l'injuriait. « N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même et nous avec. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu n'as même pas la crainte de Dieu. Tu subis pourtant la même condamnation. Pour nous, c'est juste, car nous recevons ce que nos actes ont mérité, mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi. » Quand tu viendras inaugurer ton règne. » Jésus lui répondit, « Amen, je te le déclare, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Alors, Francine Robert, sous quel angle voulez-vous qu'on aborde ce beau texte?
On pourrait dire, Claude, que ce récit est un choix, je dirais, très conforme à ce que les évangiles nous révèlent de la manière dont Dieu lui-même est roi. Donc, un choix intéressant pour la fête du Christ roi. C'est vrai pour les quatre évangiles, pour celui de Luc en particulier. Et j'aimerais tout de suite donner deux grandes pistes de réflexion sur l'ensemble du récit, sous l'angle de la réflexion à propos du pouvoir royal, puisque c'est le thème de la fête même de ce dimanche.
Oui.
Donc, deux pistes. Une première, je dirais qu'en Jésus, on doit se rappeler, nos auditeurs, nos auditrices le savent déjà, que Dieu révèle une autre conception du pouvoir, hein, c'est le service. Celui qui veut être grand, qu'il soit votre serviteur, bon, ça revient dans les synoptiques, entre autres. Et ça doit rester vrai pour nous, même après la résurrection. Autrement dit, notre façon de voir le Jésus ressuscité, le Christ, le Seigneur, doit être marqué par cette révélation que, pour Dieu, être Seigneur et Roi, c'est être serviteur. Hein? Et en particulier, dans l'Évangile de Luc, pour Jésus, servir, c'est sauver. Ou, si on veut, c'est manifester le désir de Dieu de nous sauver. Donc, c'est manifester la miséricorde de Dieu, une miséricorde qui inclut à la fois le pardon pour les péchés, la compassion pour la détresse. Et Luc va mettre ça ici en scène plus particulièrement avec le deuxième larron. Donc, c'est la première grande piste. Une royauté étrange qui est miséricorde et qui est service.
Mm-hmm.
Je peux rappeler que c'est deux traits réels de la royauté en général. Un roi dans un pays a le pouvoir de gracier, un condamné. La clémence, c'est une prérogative royale, en toute gratuité. Et un roi, en principe, ça devrait être assez puissant pour dépanner quelqu'un qui est mal pris, le sauver du malheur. Alors, on pourrait dire que dans ce sens-là, ce sont deux traits de la royauté humaine qui sont très valorisés par l'Évangile, alors que les autres traits de la manière humaine d'être roi sont laissés de côté, finalement.
C'est bon de se souvenir que nos gouvernants portent le nom de ministre,
oui.
Qui est un mot latin qui veut dire serviteur.
Oui, c'est peut-être pas à moi qu'il faut le rappeler, mais peut-être, effectivement. Peut-être qu'il y en a qui nous écoutent.
Ouais. Ministère, TER, qui veut dire serviteur.
Et c'est... Non, c'est vrai aussi dans l'Église.
Oui.
Bien. La deuxième grande piste sur le pouvoir royal, puisque la monarchie, c'est une sorte de pouvoir absolu, j'aimerais signaler que globalement, dans ce récit, le vrai pouvoir de Jésus, et en fait son seul pouvoir, c'est le pouvoir de recevoir le salut d'un autre. Il ne peut pas se le donner à lui-même, ou il ne serait pas cohérent avec ce qu'il révèle de Dieu, s'il le faisait. Donc, Jésus, roi, c'est Jésus qui reçoit la royauté et le salut par quelqu'un d'autre, qui est Dieu.
Ah, c'est intéressant, ça.
Ça va être bien mis en scène par le défi « Sauve-toi toi-même » qui est répété trois fois. Si Jésus est là pour incarner la logique de service de Dieu, qui est une logique de donner-recevoir plutôt qu'une logique de prendre, dominer, posséder, vous voyez, la logique du plus fort, ça serait une logique royale, normale, on n'est pas avec cette logique-là dans l'Évangile, et donc Jésus en croit doit recevoir son salut de quelqu'un d'autre, et ce sera Dieu.
Alors, les trois railleries, finalement, hein, mettent en évidence cet aspect-là, qu'il reçoit ce pouvoir-là.
Et il ne se le donne pas, alors qu'il est justement mis au défi de le donner. Et quand on dit les trois railleries, vous avez raison de le dire, les gens ont dû remarquer, au moins en tout cas dans la bouche des soldats, qu'on se moque de lui en l'appelant le roi des Juifs, mais les chefs religieux et le premier larron ont aussi un vocabulaire royal qui est le vocabulaire du Messie. Hein, si tu es le Messie, sauve-toi toi-même. Ça a une connotation royale, on peut peut-être se le rappeler. Hein. C'est un titre qui vient de l'Ancien Testament qui était associé au roi.
Voilà, pour se faire bien comprendre par ceux et celles qui nous écoutent, là j'ai peut-être parlé trop vite, les trois railleries, l'une vient des chefs hein, qui ricanent en disant « il en a sauvé d'autres, il se sauve », la deuxième ce sont les soldats qui se moquaient de lui, et le troisième c'est l'un des malfaiteurs, pour être clair.
Et ce malfaiteur parle du Messie en ironisant, en insultant Jésus, et les chefs religieux parlent du Messie aussi. Alors donc, Messie rapproché de la figure royale, parce que dans l'Ancien Testament, c'était presque synonyme roi et Messie. Parce que Messie vient d'un mot hébreu, hein, Mashiach, qui veut dire celui qui a reçu l'onction, une onction d'huile. Or, c'est le roi qui recevait l'onction d'huile au moment où il était sacré roi.
Et qui devenait le représentant de Dieu au milieu de son peuple.
Absolument. Et donc, on est dans la dynastie de David, hein, de sorte que le roi ou le fils de David ou le oint, celui qui a reçu l'onction, tout ça est un petit peu synonyme à une certaine époque de l'Ancien Testament. Et en grec, Messie, ça se traduit Christ. Dans l'Ancien Testament traduit en grec, le mot Messie est traduit par Christos. Alors, ça veut dire qu'on a, c'est pas des synonymes, c'est presque la même chose. Le oint en français, le Messie, c'est un mot hébreu. Le Christ, c'est un mot grec. C'est trois mots qui signifient la même chose dans trois langues différentes, là.
Voilà.
Ça va? Donc, quand les chefs religieux vont dire, tu es le Messie, sauve-toi toi-même,
c'est tu es roi.
Il y a une connotation royale.
Mais voilà.
Bien que, bon, ça aurait besoin de nuances, c'est peut-être pas aussi évident que le titre n'avait que cette signification-là au temps de Jésus. Il y a des problèmes historiques un peu plus complexes là, qu'on n'abordera pas. Mais dans le vocabulaire du Nouveau Testament, qui est un vocabulaire chrétien, c'est très souvent associé à la royauté, à la dynastie. Pensez à ce que l'ange Gabriel dit à Marie. On est dans l'évangile de Luc avec ça. Dieu lui donnera le trône de David, son père. Donc, le sens du mot Messie qui vient du passé, c'est celui-là. Ça a un sens qui est tourné vers l'avenir aussi. Le Messie, c'est celui par qui le règne de Dieu advient. Donc, c'est le royaume à venir et le royaume passé, si on peut, si on veut dire.
OK. Oui.
Alors, parfois, Luc va aussi préciser pour ses lecteurs grecs le Christ de Dieu ou le Messie de Dieu. C'est la profession de foi de Pierre à Césarée, qui, dans Luc, est un peu différente de celle de Marc ou Matthieu. Et l'ange dans la nuit de Noël aussi, on est encore dans Luc, hein. Le Christ Seigneur, on pourrait aussi bien traduire, c'est le Messie Seigneur, ce sauveur qui vous est donné. Donc, ce titre religieux est utilisé par les chefs, on l'a dit, en raillerie, et Luc l'a associé, un peu comme à son habitude, quand il utilise le titre de Messie, il l'a associé à un autre titre, ici c'est l'élu, qu'on ne trouve pas donc dans les moqueries de l'évangile de Marc ou de Matthieu. Alors, si tu es le Christ, l'élu, ça rappelle la transfiguration. On avait cette même qualification de Jésus par la voix là, qui était du ciel.
OK.
Alors, ça veut dire que ça renvoie à l'instrument que Dieu s'est choisi. C'est d'autant plus ironique si cet instrument de Dieu que Dieu s'est choisi a échoué. Ça, on comprend la mise au défi. Hein. Si vraiment tu étais l'instrument de Dieu, tu pourrais te sauver toi-même. Tu devrais utiliser ton pouvoir et le pouvoir de Dieu. L'autre usage, bon, c'est la moquerie des soldats romains, on en a parlé. Les soldats romains ici, se moquant, c'est un ajout de Luc. Alors, ils incarnent le pouvoir politique, bien sûr, celui de Rome, donc leur insulte est faite avec un vocabulaire politique. Si tu es le roi des Juifs. Et c'est un écho à l'écriteau qui a été placé au-dessus de la tête de Jésus, qui est présenté, celui-ci est le roi des Juifs, qui est présenté comme le motif d'accusation à cause duquel Pilate, enfin, qui a servi de prétexte, si on veut, à Pilate, pour condamner Jésus, motif d'accusation que les chefs religieux ont eux-mêmes donné à Pilate. C'est assez ironique, hein? Il y a une sorte de clin d'œil à la foi chrétienne, puisque les chefs religieux savent que Jésus s'est pas vraiment proclamé roi. Pilate joue le jeu, se doutant bien que c'est pas tout à fait non plus légitime de le condamner. Chez Luc, Pilate dit trois fois l'innocence de Jésus. C'est assez typique. Tout ce monde-là joue le jeu, sachant que c'est un peu un mensonge. Nous, on le sait comme lecteurs, et en même temps, nous, on sait que c'est la vérité. Alors, ces gens qui sont en train consciemment de mentir, d'un point de vue du lecteur chrétien, ils disent la vérité, en ne le sachant pas. Ces gens qui se moquent en tournant en dérision le titre de Jésus roi, en se disant, en fait, c'est parce qu'il est pas roi, sont en train de dire une vérité du point de vue de la foi.
Mm-hmm.
Alors, il y a une sorte de clin d'œil, je dirais, du récit vers le lecteur chrétien ici. Luc travaille bien ces textes. Bien, j'ai commencé avec les railleries des chefs. J'ai sauté par-dessus le début du récit qu'on a aujourd'hui. C'est que le peuple restait là à observer. Hein. Chez Luc, ça c'est typique. Le peuple est habituellement présenté comme positif et donc Luc détache le peuple. Contrairement chez Marc, les passants se moquent de Jésus aussi. Ici, le peuple est plus neutre. Il observe. Et Luc ajoutera, après la mort de Jésus, que les gens qui étaient là pour observer, en voyant ce qui s'était passé, s'en retournaient en se frappant la poitrine. Donc, on pourrait dire que le peuple reconnaît qu'il y a là une injustice qui a été commise. Il se reconnaît fautif, d'une certaine manière.
Oui, parce que ça commence, hein? On venait de crucifier Jésus et le peuple restait là à observer.
Oui.
Le verbe théorène.
Théorène, hein? C'est plus que regarder des yeux.
C'est plus que regarder distraitement, là.
Oui, oui, absolument. C'est
regarder avec attention, finalement.
Tout à fait.
Oui, oui, oui.
Et regarder pour comprendre aussi.
Il scrute, là, hein? Qu'est-ce qui se passe, là?
C'est intéressant de voir que, d'après Luc, finalement, le peuple, regardant cela, va comprendre quelque chose. Luc ne parlera pas de conversion, là, au sens fort. mais il est le seul donc à mentionner cette repentance du peuple qui retourne après la mort de Jésus en se frappant la poitrine. Ça, c'est propre à Luc. Comme si, finalement, observer Jésus en croix, chez certains, ça provoque l'hostilité ironique et mordante. Et observer Jésus en croix, chez d'autres, ça provoque une sorte de consternation qui amène à réfléchir et à voir autrement.
C'est ça.
Ça provoque des réactions contradictoires. Ce que Siméon, toujours dans l'Évangile de Luc, annonçait déjà, hein, cet enfant va être un signe qui provoquera la contradiction. Alors, chez Luc, donc, on a ce retournement positif du peuple et on a encore deux autres retournements positifs qui font, donc ça fait trois, qui font le pendant à la triade des moqueries. Il y a celui auquel on s'attend parce qu'on l'a chez Marc et Matthieu, le centurion, qui rend hommage à Jésus. Chez Marc, le centurion dit, après la mort de Jésus, vraiment celui-ci était fils de Dieu. Et chez Luc, le centurion dit, sûrement cet homme était juste, ce qui équivaut à dire, sûrement cet homme était innocent. Il y avait le peuple, dont j'ai parlé, donc qui est aussi une figure positive, et il y a le larron, qui est aussi une figure positive et qui est propre à Luc. Et le larron, le deuxième larron, qui va proclamer l'innocence de Jésus et qui va lui reconnaître une identité royale. Bon, si on pense aussi aux femmes qui étaient sur le chemin de croix, qui ne sont pas dans notre texte d'aujourd'hui, et qui sont propres à Luc, et elles pleurent sur Jésus, ouais, ça fait plusieurs figures positives hein, dans l'Évangile de Luc. Et je ferais comme une autre réflexion sur le pouvoir ici, puisque c'est la fête du Christ-Roi. C'est comme si Luc présentait son récit de la mort de Jésus en tenant compte, bien sûr, que c'est une ambiance négative, c'est un échec, c'est le rejet par l'humanité, bon, du Fils de Dieu, tout ça. Mais il contrebalance ça par un certain nombre d'aspects positifs qui sont ces aspects-là, les conversions ou les débuts de conversion opérés chez certains personnages. Alors, les femmes, le peuple, le deuxième larron, qu'on ne trouve que chez Luc. Un peu comme si Luc disait finalement, dans cette dérédiction, dans cette absence totale de pouvoir chez Jésus crucifié, il y a là manifesté toute la force de l'amour, la force du respect de l'autre qui, chez certaines personnes, amorce finalement une sorte de retournement, une sorte de conversion. Le refus de devenir un dominateur, un roi dominateur, ça a une certaine puissance, je dirais.
C'est comme si ça interpellait,
oui,
finalement.
Hein? Ça a une puissance d'interpellation, oui. Ouais. C'est une. Ouais. Et alors, donc, le non-pouvoir est puissant.
C'est ça.
C'est tout à fait paradoxal et intéressant pour notre manière de voir le Christ comme étant roi en ce dimanche du Christ-Roi.
C'est aussi une occasion de réfléchir sur ce que doit être le véritable pouvoir.
Absolument.
Hein, qui ne s'impose pas, mais
qui est l'amour, c'est ça, exactement.
Et qui appelle justement à une meilleure humanité, etc.
Oui. Alors, la scène des deux larrons, qu'on pourrait traduire comme le lectionnaire, les deux malfaiteurs. Le mot est propre à Luc, hein. Ce sont vraiment, c'est un mot qui est composé avec mal, kakos, hein, et faire ou tâche ou œuvre, ergon. Donc, c'est vraiment ceux qui font le mal, c'est ça. Donc des mal.
D'où les malfaiteurs.
Les malfaiseurs,
c'est
on ça,
dirait.
On a eu la même idée. Alors, quand on appelle le deuxième le malfaiteur, le bon larron, là, on emploie une expression qui est complètement absente du texte et c'est un petit peu un non-sens. Un malfaiteur.
Ben oui.
Et d'ailleurs, il le dit lui-même qu'il est coupable. Et nous, si on s'en souvient, ça nous permet de toujours rester dans la thématique que Luc met en scène ici comme partout. Ce sont les pécheurs qui s'approchent de Jésus.
C'est ça.
Cet homme, il est présenté par Luc comme un pécheur.
C'est un vrai pécheur.
C'est lui qui se tourne vers Jésus.
C'est
un bandit.
C'est pas un faux bandit.
Non, non.
C'est
un pécheur. Ouais. Et ça rappelle que dans Luc aussi, Jésus a annoncé à l'arrestation à Gethsémani, voici que va s'accomplir ce qui a été dit de moi, je serai compté ou il sera compté avec les malfaiteurs. Alors ici, Jésus est entre les deux larrons, comme dans Marc, comme dans Matthieu, mais ces deux personnages malfaiteurs sont plus importants. D'abord, on a le contenu de l'ironie du premier, ce que nous n'avons pas dans Marc et Matthieu, où on dit seulement que les deux larrons se moquent de lui. Ici, c'est assez fort, il l'insulte, en fait, ou il le blasphème, le mot grec qui est là, c'est le blasphémer. Et c'est intéressant de voir comment le premier, qu'on appelle mauvais, mais enfin, ils sont ni mauvais ni bons, ils sont mal pris comme lui aussi. Ils sont, oui, mauvais, mais aussi mal pris. Et donc, il l'insulte et il demande en même temps. Hein, il l'insulte, hein, c'était le Messie, sauve-toi, mais sauve-nous aussi. Ils ont quelque chose en commun avec lui, finalement. Ils sont pendus au bois, tous les trois, donc sauve-toi de ça et sauve-nous avec toi. Ce qui est une manière pour Luc de nous rappeler un trait important de Jésus dans son évangile, c'est sa solidarité avec nous, jusqu'avec le pécheur pendu au bois, finalement. C'est un roi qui reste l'un de nous.
Voilà.
L'autre larron, le deuxième, donc, va dire à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume ou quand tu viendras comme roi. » Donc, c'est lui qui, je dirais, reprend l'identité royale à venir de Jésus. On se demandera pas historiquement là, ce qu'il comprenait de ça. On est dans Luc et avec un texte propre à Luc qui sert à reproclamer l'innocence de Jésus, à reproclamer aussi, d'une autre manière pour Luc, la façon particulière dont Jésus est roi, c'est-à-dire la clémence. Hein, la réponse de Jésus, c'est implicitement le pardon. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. C'est le salut aujourd'hui, immédiatement. Et c'est le salut qui passe par la mort. Hein. Ça va pas escamoter la mort, ni celle de Jésus, ni celle du larron. Mais Jésus dit, ouais, tu peux quand même être sauvé. Il y a rien, enfin le salut n'est jamais impossible. Il reste accessible. Alors, je veux simplement signaler que ceci, c'est la dernière parole de Jésus adressée à quelqu'un dans l'évangile de Luc. Cette parole qui accueille simplement la demande du larron, sans vérifier hein, s'il y a un grand repentir. Le larron...
Non, il n'y a pas beaucoup de repentir.
On n'en sait rien, au fond. Il n'y a pas non plus de bravade, mais il dit, oui, nous, on a mal fait, on mérite ce qui nous arrive, mais il dit pas, je regrette d'avoir mal fait ou d'avoir fait du mal à quelqu'un. On ne sait pas, un peu comme pour le prodigue, on ne savait pas trop.
C'est comme le fils prodigue. Là,
c'est
hein,
ça.
Mais
ce qui est intéressant, donc, c'est que Jésus s'inquiète pas trop du degré de conversion, pas plus que tout juste avant, lorsqu'il a prié en disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il dit pas « Pardonne-leur s'ils se convertissent.
Mm-hmm. »
Il prie pour le pardon. Ici, donc, sa dernière parole adressée à quelqu'un, c'est encore une parole de pardon. On est tout à fait dans l'évangile de Luc, où Jésus annonçait à sa première parole publique la libération des captifs. Et voilà, ça se manifeste par le pardon.
Alors, vous venez d'entendre Francine Robert, professeure à l'Institut pastoral des Dominicains à Montréal.
Francine Robert, au nom des personnes qui nous écoutent, je tiens à vous remercier sincèrement, chaleureusement, car c'est notre dernière émission. Nous arrivons à la fin de l'année liturgique, l'année C, et nous commencerons samedi prochain l'année A. Ça sera en compagnie de André Mire.
Qui est un grand spécialiste de l'évangile de Matthieu, Claude.
Lequel évangile, selon saint Matthieu, va nous accompagner tout au long de la nouvelle année liturgique.
Au microphone, Claude Julien, qui vous souhaite une bonne fin de semaine à notre antenne et vous donne rendez-vous la semaine prochaine, à la même heure.